pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par L'Incipit, la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi un livre de Georges Perec, aujourd'hui La Disparition. Voici le premier paragraphe du texte parce que la première phrase était un peu courte. Anton Voile n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuya sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. La disparition de Georges Perec. Et vous avez remarqué ? Pas un seul E. La lettre a disparu. Justement, c'était la contrainte de Georges Perec pour écrire tout un roman. Ne pas utiliser la lettre E. Essayez, juste comme ça, prononcer une phrase sans E, c'est pas facile. Alors tout un roman, c'est complètement fou et génial. Des romans, nous en découvrirons beaucoup d'autres avec Jean-Michel Ribbe. Nous avons fait un tour avec lui dans la librairie de son théâtre, le théâtre du Rond-Point. Nous ferons un tour chez notre libraire, Christophe Daniel, pour trouver de bonnes idées de lecture. Et nous terminerons avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'est bientôt Noël et à Noël on se fait plaisir, on retourne se lover dans les classiques qui font plaisir et pourquoi pas Peter Pan. Le roman de James Barry a été publié en 1904, adapté bien entendu en film et en dessin animé, mais l'origine c'est le livre et l'origine du livre c'est le manuscrit. Les éditions des Saint-Pères publient régulièrement les facsimilés, les copies parfaites des manuscrits des plus grands chefs-d'œuvre. C'est toujours très émouvant parce qu'on voit les coulisses de la création, les ratures, les corrections. Et le dernier trésor que les éditions des Saint-Pères mettent à disposition du grand public, c'est donc le manuscrit de Peter Pan. Deux invités pour évoquer ce chef-d'œuvre. Bonjour Jessica Nelson.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice des éditions des Saint-Pères. Et bonjour Philippe Mello.
Bonjour.
Vous êtes libraire, vous tenez la librairie Monte Cristo à Paris et vous êtes un spécialiste de la littérature jeunesse. Avant de rentrer dans le cœur du roman, est-ce que vous pouvez nous raconter, Philippe Mello, les coulisses, c'est-à-dire comment James Barry a inventé Peter Pan ? Il y a une jolie histoire avant l'histoire.
Oui, effectivement, c'est souvent le cas d'ailleurs dans la littérature jeunesse, c'est que les auteurs racontent des histoires aux enfants des amis ou à leurs propres enfants.
Comme le Seigneur des Anneaux, comme Alice au Pays des Merveilles.
Tout à fait. Mmh. Et dans ce cas-là, c'était effectivement aux enfants d'amis et petit à petit, donc à force de les rencontrer, il est parvenu à broder et à donner, je dirais, une épaisseur et une intelligence, même une force, une puissance, je dirais, à ce petit rêve d'enfant, je dirais, préliminaire. Et puis de fil en aiguille, il a fini par introduire tout ça dans un ouvrage plus important, qui s'appelle Little White Bird, mais en français, le petit oiseau blanc. Mais
c'était un des personnages de ce roman-là.
C'est un des personnages. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, en 1906, ils vont extraire le personnage de Peter Pan, mais pour un autre texte, qui n'est pas le texte qu'on connaît sous le nom de Peter Pan, et qui est en vérité plutôt Peter and Wendy. Et ce texte, ça va paraître en 1906, et illustré par un des plus grands illustrateurs du moment, qui s'appelle Archer Rackham, et qui est un type absolument merveilleux. C'est le grand spécialiste de tout ce qui est féerie, et il a un trait qui a... D'ailleurs, c'est un des principaux traits qui a inspiré Walt Disney, non pas seulement pour Peter Pan, mais surtout pour tous ces grands films, ces premiers grands films comme Blanche-Neige, tous les arbres tordus sont tout à fait merveilleux. Et c'est pour ça, Rackham était vraiment un maître.
C'est un personnage de roman, mais tellement intéressant qu'il est devenu lui-même le héros principal d'un roman.
Alors,
c'est
là, donc, en 1911, il finit donc par Barry finit par mettre en place vraiment ce qui va devenir la légende de Peter Pan, de Peter and Wendy. Et ce texte va tout de suite avoir un succès absolument considérable en Angleterre et après en France. Mais ça vient après. C'est d'abord quand même très anglais, je dirais.
On va y revenir sur la postérité. C'est vrai qu'elle est impressionnante, Jessica. Vous nous rappelez l'histoire quand même de Peter Pan pour ceux qui n'aurait ni lu le roman, ni vu le dessin animé, ni les adaptations différentes, voilà. Du théâtre, etc. C'est incroyable, il y en avait partout du Peter Pan.
Mais c'est ça qui est fascinant, c'est les différentes strates d'écriture qui en effet permettent d'arriver à cette histoire que tout le monde connaît, qui est laquelle, celle des enfants Darling, qui un soir vont faire la connaissance d'un personnage extraordinaire qui va bouleverser leur vie et dont le nom n'est autre que Peter Pan, qui va débouler dans leur vie avec une petite lumière bleue qui l'accompagne, un feu follet mystérieux qui n'est autre que Clochette, Tinkerbell dans la version anglaise. Et donc ensuite, ce sont les aventures de Wendy et de ses frères au pays imaginaire Neverland, ou dans la version manuscrite Never Neverland. Et voilà, et c'est effectivement un grand classique. On connaît les grandes étapes, les grands épisodes, les grands chapitres de l'histoire. Et c'est toujours un bonheur de le redécouvrir sous des formes diverses.
Et la particularité de Peter Pan, c'est qu'il ne grandit pas. Il reste un enfant. Il a refusé.
C'est le début du texte, en fait. C'est le petit garçon qui ne grandissait jamais. C'est un des titres initiaux de la pièce, me semble-t-il, The Boy Who Will Never Grow Up. Et le début du livre, donc, c'est tous les enfants grands à l'exception d'un. Et donc, il s'agit de notre ami Peter.
Philippe Mello, il y a succès énorme, on l'a dit, mais dès le départ, il y a même eu un regain du prénom Wendy en Angleterre à l'époque de la parution. Il y a eu une statue de Peter Pan très très vite aussi à Kensington Garden. Comment on explique ça comme un tel...
Je
était déjà connu, James Barry.
Je ne sais même pas si le prénom Wendy était réellement un prénom très usité.
Oui.
J'ignore même si, peut-être même, n'existait-il pas. C'est souvent le cas, d'ailleurs. On invente un nom, un très joli nom, et puis subitement, ce nom fait école et, par la suite. Mais en tout cas, dans le cas de Wendy, c'est flagrant, puisque ce prénom va devenir un des prénoms favoris de toutes les mamans et papas anglais.
La camarade Wendy Bouchard, d'ailleurs, m'a confié que c'était aussi grâce à Peter Pan qu'elle avait été prénommée ainsi.
Chaque fois que je l'écoute sur Europe, justement,
vous pensez à Peter Pan.
Chaque fois que j'entends son nom, c'est automatique. Tout de suite, c'est Peter and Wendy.
Pourquoi ça a explosé comme ça immédiatement? James Barry était déjà connu pour d'autres romans qui avaient déjà bien marché.
Je pense que la séduction du personnage, l'image, bon, cette image, cette forme de pureté, c'est une attribution. C'est une époque où on avait surtout, en plus, parce qu'on est dans la période juste avant 14, pendant la guerre.
Ah oui,
c'est tout de même une période relativement noire pour l'Angleterre comme pour les autres. Et le fait d'avoir quelque chose, une inspiration, je dirais, aussi généreuse, aussi lumineuse que Wendy, à mon avis, était peut-être une origine tout à fait parfaite.
Jessica, vous avez une idée ?
Oui, je pense que c'est vrai qu'on est quand même à un moment où James Barry est une star à Londres. Hein. C'est un dramaturge qui est extrêmement connu pour ses pièces de théâtre essentiellement. D'ailleurs, dans les années 20, bon là on est un petit peu après, mais Charlie Chaplin qui fait un voyage à Londres dit qu'il a envie de rencontrer une personne et c'est James Barry.
Avant Peter Pan.
Donc là on est un petit peu après Peter
D'accord,
Pan.
Quand même.
Mais donc on peut imaginer, compte tenu de cette notoriété et du succès dont il bénéficiait, que les noms des personnages aient influencé des générations d'enfants. Et d'ailleurs, dans une littérature plus proche de la nôtre, quand on voit les prénoms de Games of Thrones qui ont influencé aussi des noms de baptême très récents, c'est vrai que ça fait partie des bienfaits de la littérature.
Ils ont regretté d'avoir appelé leur enfant Khaleesi quand même. Je ne vais pas dévoiler la fin non plus.
Wendy est peut-être plus simple à porter.
C'est plus simple. Jessica, comment et pourquoi vous avez décidé d'éditer le manuscrit de Peter Pan maintenant?
Écoutez, il faisait partie évidemment des grands classiques de la littérature. Alors, je ne dirais pas la littérature jeunesse, mais la littérature tout court, qui personnellement m'ont marqué. On a publié il y a quelques années le manuscrit d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, c'est vrai que Peter Pan nous semblait un grand classique vraiment à proposer au public. Et puis, il n'avait jamais été édité. Donc, ce manuscrit qui est conservé à New York et dont la venue à New York est un petit peu mystérieuse. On sait qu'il a été donné dans les années 40, 44, je crois précisément.
C'est toujours mystérieux, vos histoires de manuscrits.
C'est vrai, c'est vrai que y a ces manuscrits... vont et viennent, apparaissent et disparaissent, et au gré des collections, des achats, des ventes, etc. Il y en a certains, comme Alice, qui sont plus faciles à tracer. Mais celui de Peter Pan, par exemple, on sait qu'il arrive en 44 à New York, et il est conservé à la NYPL, la New York Public Library, depuis lors, mais jamais publié. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment.
C'est chose faite. Restez avec nous, ne grandissez pas trop vite. On retourne dans un instant dans le pays imaginaire. À tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre pour évoquer l'un des chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse, un grand classique, Peter Pan, à l'occasion de la parution aux éditions des Saint-Pères du manuscrit original en fac-similé. C'est magnifique, on voit l'écriture de James Barry, l'auteur qui a écrit Peter Pan au début du XXe siècle, toujours avec Jessica Nelson des éditions des Saint-Pères et Philippe Mello, spécialiste de la littérature jeunesse et libraire. C'est la librairie Monte Cristo à Paris. Philippe Mello, justement, je dis littérature jeunesse, mais au fond, comme n'importe quel grand roman supposé à destination des enfants, il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut le lire adulte, évidemment.
Mais la plupart des auteurs comme ça, 19e, qui sont des auteurs d'aventure, de romans d'aventure, et de toute cette, je dirais, cette littérature un peu ambiguë, parce qu'elle peut effectivement toucher, je dirais, un public adulte comme un public d'enfant. Au 19e, déjà, ils avaient une façon de partager les choses. C'est-à-dire que quand il y a une foison d'éditions, par exemple, de Robinson Crusoe, mais les éditions complètes du texte sont finalement très rares. On trouve surtout des versions expurgées à l'époque, où on limite d'ailleurs l'histoire à la période de Lille. Parce que c'est effectivement ça qui a marqué justement les mémoires. Mais en plus de ça, parce que l'autre partie, je dirais les autres parties du texte sont beaucoup plus compliquées, moins joviales, moins, je dirais un peu moins folles. Et donc souvent, cette littérature adulte finissait par être revue.
Mais c'est compliqué la notion de littérature jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit un bon roman, soit c'est un mauvais roman, mais...
Bah, pendant très longtemps, quand on parle de la bande dessinée, c'était forcément pour la jeunesse, jusqu'au jour où la bande dessinée a pris un caractère adulte parce qu'elle utilisait plus de formules comme le sexe ou n'importe quoi, ce qui était totalement impensable jusqu'à une certaine époque. Mais en même temps, cette forme de littérature qui débouche après, intéresse finalement tout. Les publics.
Et dans Peter Pan particulièrement, il y a des réflexions très profondes, Jessica, philosophiques, psychanalytiques, même sur la mère. Peter Pan prend un peu Wendy pour sa mère, refus de grandir, de vieillir plutôt. D'ailleurs, on parle du syndrome de Peter Pan aujourd'hui en psychiatrie pour certaines personnes qui refusent obstinément de devenir raisonnables, qui n'acceptent pas de vieillir et donc de mourir finalement.
Mais c'est peut-être la force de ces grands textes de la littérature. Effectivement, on les range dans une catégorie, mais est-ce que c'est très pertinent? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de lecture, il y a plusieurs strates possibles. Alors, évidemment, sans tomber non plus dans la casserole analytique freudienne et passer au grill tous les mythes et tous les contes et toutes les histoires. En tout cas, c'est vrai que dans Peter Pan, il y a un certain nombre de dimensions philosophiques qu'on peut tout à fait aborder, comme le refus de grandir, comme la nécessité de s'évader, comme le rapport des enfants aux parents. Et dans le manuscrit, c'est vrai que il y a une dureté et il y a une atmosphère beaucoup plus inquiétante que finalement les sensations qui nous sont restées a posteriori, et je dirais après que Walt Disney soit passé par là avec un petit peu, je dis ça gentiment, mais le rouleau compresseur du bon sentiment.
Voilà. Parce que c'est dur finalement, Peter Pan il n'a pas la notion du temps, il ne connaît pas l'amour par exemple.
Il ne connaît pas l'amour, et puis c'est un personnage qui est beaucoup moins joyeux luron qu'il y paraît. C'est un enfant, et d'ailleurs Barry le disait lui-même, il faut être sans cœur, innocent, gai et sans cœur pour apprendre à voler, pour aller au pays imaginaire. Et donc c'est un petit peu toute cette dimension, je dirais, de l'enfant égoïste qui ressort ici, mais d'un enfant égoïste génial et créatif, et qui est dans le jeu, et qui est dans la découverte, dans l'île au trésor, les pirates, etc. Mais en tout cas, toutes ces dimensions sont bel et bien présentes.
Oui. Tous les personnages sont fascinants. La fée Clochette, par exemple, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une petite fée gentille.
Pas du tout.
Elle les met vraiment dans un sacré pétrin, en fait. On ne va pas tout raconter, mais c'est...
Pas du tout.
C'est elle l'élément perturbateur, en fait.
Et c'est un élément qui a justement cette nuance qui est intéressante à explorer dans le conte d'une façon générale. C'est-à-dire que c'est un personnage très amusant, mais en même temps où rien n'est ni blanc ni noir. Et Barry se serait inspiré d'un mot écossais, puisqu'il était d'origine écossaise, qui est tinkle, et qui voudrait dire bohémienne, avec à l'époque, évidemment, à replacer dans un certain contexte, tout ce que ça pouvait entraîner dans l'imagination et dans le folklore associé.
Parce qu'en anglais, c'est Tinkerbell, donc
voilà.
La fée Clochette. Mm-hmm. Philippe Mello, pour une bonne histoire, ce qu'il faut aussi, c'est un bon méchant. Et dans Peter Pan, il y a quand même l'un des plus grands méchants de la littérature, c'est le capitaine Crochet. Il est au moins aussi célèbre que Peter Pan.
C'est justement, pour en revenir à la notion de lecture, de niveau de lecture, je repensais à la version Disney, qui est une version, passée au rouleau compresseur peut-être, en tout cas qui a inspiré, oui bien sûr, et qui a inspiré, je dirais, les rêves de plusieurs générations d'enfants. Et je repensais aussi donc à la version qui était de Loisel, qui avait adapté ça, parce que on en avait beaucoup parlé à l'époque, je le publiais, et on avait beaucoup... Et son rêve était d'adapter Peter Pan en bande dessinée. Il en a fait d'ailleurs une série de 8 ou 10 volumes, je ne sais plus. Mais lui, sa vocation était d'en donner une version beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre, beaucoup plus finalement proche d'ailleurs de l'œuvre originale. Et son univers, son Crochet, mais est absolument hideux, monstrueux. Il n'est pas délicieux dans la version Disney, mais il reste grotesque à la limite, un peu comique. Donc, alors que Loisel, lui, en a fait un personnage totalement sombre et d'une méchanceté absolue.
En deux mots, qu'est-ce qui fait un bon méchant dans la littérature jeunesse? Là, vous les repassez tous dans votre tête, c'est compliqué.
J'essaie de voir quels pourraient être leurs traits communs ou leurs réactions à chacun.
C'est d'être le miroir du héros?
Il est possible, effectivement, que ce soit une lecture intéressante de la vision du plus beau et du meilleur méchant, oui.
Ça pourrait être pour leur ambivalence aussi, parce que dans la pièce de Peter Pan, le Crochet est souvent joué par le personnage du père, par Mr. Darling. Donc il y a aussi ce côté-là...
Par le même acteur, en fait.
Oui, le même acteur sur scène qui, effectivement, endossait les deux costumes, celui de Hook et celui du père des enfants.
Oui, c'est vrai que le capitaine Crochet est un peu le père de Peter Pan, d'une certaine manière.
Il y a
une autorité,
on pourrait creuser, encore une fois, à l'aune de l'enseignement de Bettelheim, notamment, toute cette histoire.
Jessica, tant que vous êtes là, le truc génial avec vos manuscrits, c'est qu'on peut jouer au jeu des différences. Qu'avait-il dans la version originelle, donc du manuscrit, qui a disparu quand le livre a été édité? Qu'est-ce qu'on apprend en se plongeant dans le manuscrit?
On en parlait il y a un instant, mais il y a toute cette dimension du personnage de Peter Pan qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus égoïste, beaucoup plus farceur, mais dans le sens un peu inquiétant du terme, dans la toute première version. Et ça m'a fait penser, alors on sait que James Barry lisait Percy Shelley, et Percy Shelley qui était l'époux de la créatrice de Frankenstein, qui elle-même a été revenue, et c'est visible dans le manuscrit, d'où l'intérêt de s'atteler à la critique génétique et à la plongée dans les manuscrits. Mais tout ça n'est visible effectivement que dans la version manuscrite. Donc il y a quand même de la part de l'auteur une manière de revenir sur un texte qui parfois est jugé peut-être trop dur pour l'adoucir et pour l'adresser à un public sans doute un peu plus large, et dans le cas de Peter Pan évidemment un public d'enfants. Ça fait partie des différences qu'il est intéressant de traquer. Après, c'est vrai qu'on peut s'intéresser aussi au titre des chapitres. Le premier chapitre, c'est le rêve de Madame Darling dans le manuscrit, qui l'a barré pour ensuite le transformer en arrivée de Peter Pan. Mais ça aussi, ça dénote quoi? Ça dénote une importance accordée à la présence de la mère, à la figure de Madame Darling, qui est plus importante dans le manuscrit que dans la version publiée. Ça fait partie des nombreuses... des petites chasses au trésor qu'on peut faire dans le manuscrit.
Et le pays imaginaire, c'est Neverland dans la version anglaise, mais dans le manuscrit, c'est Never Neverland.
Voilà, c'est encore plus inaccessible
que
dans la version. Eh oui, et ça, alors il faudrait pouvoir... poser la question à James Barry lui-même, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un écrivain qui est au travail avec son stylo ou sa plume et qui pense quand même, après avoir pensé à lui et à ses propres désirs et sa propre inspiration, qui pense à son public et à son éditeur.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Philippe Mello, merci. Je rappelle le nom de votre librairie, c'est facile, c'est Le Plus Beau Nom, Monte Cristo. Et je rappelle aussi que vous avez publié 100 ans de livres d'enfants et de jeunesse, 1840-1940. C'est une édition de référence, mais qu'il est difficile de trouver aujourd'hui. Mais on peut encore se la procurer d'occasion.
On devra le rééditer un jour ou l'autre.
Et merci beaucoup à Jessica Nelson. Merci sincèrement pour le travail que vous faites en mettant à disposition du public ces manuscrits. Vous nous rappelez comment on peut se les procurer ?
Sur notre site internet, essentiellement.
Édition des Saint-Pères.
Exactement.
Merci beaucoup, à bientôt.
Europe 1.
Dans un instant, nous donnerons la parole à un autre éditeur. Frédéric Martin fait partie des lauréats des premiers trophées de l'édition qui ont eu lieu mardi dernier. Lui est récompensé pour la création de sa maison indépendante, le Tripode. Il va nous dire comment on réussit un tel prodige, créer une maison d'édition. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Vous écoutez La Voix est libre. Exceptionnellement, pas de roman culte cette semaine, mais un éditeur. Mardi dernier, ont été remis les trophées de l'édition. Europe 1 est évidemment partenaire de l'événement. J'ai donc invité l'un des lauréats. Bonjour Frédéric Martin.
Bonjour.
Vous avez remporté le trophée de la petite maison d'édition de l'année, petite par la taille, grande par la qualité. Il s'agit des superbes éditions du Tripode. Vous comptez quelques auteurs reconnus et récompensés, Bérangère Cournu dernièrement, prix Fnac, Valérie Manteau, prix Renaudot l'année dernière, et Ali Zamir, notamment l'auteur d'Anguille sous roche. On va y revenir, mais d'abord racontez-nous, comment décide-t-on de créer tout à coup sa propre maison d'édition à soi, rien qu'à soi ?
J'étais au chômage.
Ah oui ?
Personne ne voulait de moi. J'ai travaillé à une époque dans l'édition. Et puis j'étais parti sur un coup de tête de la maison où j'étais en me disant je vais refaire la même chose ailleurs. Et à chaque fois que j'allais voir des copains éditeurs, ils me disaient c'est super ce que tu fais comme boulot, mais dans une grande maison, on ne travaille pas comme ça, c'est pas possible. Et donc j'ai fini par comprendre que si je voulais faire des livres comme je voulais, j'avais pas d'autre choix que de créer une maison d'édition.
On travaille pas comment ?
Je dirais en façon couteau suisse. C'est-à-dire, moi, je suis capable de faire des maquettes, de faire la comptabilité, de faire le ménage, de faire des textes.
Vous piquez le boulot des autres, en fait.
Il y a un auteur que je publie, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Goliarda Sapienza, qui dit « Qu'est-ce que la beauté, sinon la cohérence ?» Voilà, travailler sur un livre de A à Z, ça permet d'avoir une cohérence et donc une beauté qui est vraiment précieuse.
Vous dites « je l'ai fait parce que je n'avais pas tellement le choix », mais enfin, c'est pas aussi simple que ça. Créer une maison d'édition, il faut recruter des auteurs, trouver les moyens d'imprimer, de distribuer. Comment ça fonctionne ? Comment on y va ?
Ouais, je dirais que la première chose, c'est quand même l'inconscience. C'est qu'on ne mesure pas quand même la charge de travail que ça peut être.
Il faut de l'argent aussi.
Pas tant que ça. Historiquement, être éditeur, c'était maîtriser deux appareils industriels. Imprimer un livre, avant, c'était compliqué. On avait des petits caractères en plomb pour rien que former le texte. Il fallait des heures de travail. Aujourd'hui, vous prenez un fichier Word et en 10 minutes, je vous fais un livre. Et on peut imprimer ça à 50 exemplaires avec les technologies du numérique. La vraie révolution du numérique, ce n'est pas les livres numériques, les EPUB, c'est les processus de fabrication des livres papier qui sont devenus tellement plus simples. Donc non, techniquement c'est très facile. Ce qui est plus compliqué, c'est l'abondance. C'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a beaucoup de livres, mais le livre se retrouve en concurrence avec plein de manières de se divertir et il faut l'accepter.
Et comment on recrute les auteurs quand on n'a pas encore créé la maison ou qu'on vient juste de la créer ? Parce que par définition, pour recevoir des manuscrits, il faut exister.
Ouais.
Si on ne vous connaît pas, on ne vous envoie pas de manuscrits.
C'est marrant maintenant que vous le dites. Je me perçois que non, mais je me suis créé sur les ratés des autres éditeurs. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai publié des livres dont personne ne voulait. Ali Zamir, par exemple.
Ali Zamir, l'auteur d'Anguille sous roche, voilà, qui avait fait sensation avec son premier roman.
Exactement, et puis qui a reçu le prix France Télévisions cette année avec son troisième. C'était un auteur qui cherchait un éditeur depuis 5 ans. Il avait envoyé, je pense, une centaine de maisons d'édition. Et c'était tellement bizarre que personne ne voulait le publier.
C'est bizarre parce qu'il emploie des mots rares. Et puis le principe de départ était bizarre dans Anguille sous roche. C'est-à-dire que c'était une seule longue phrase en 300 pages, puisque c'était quelqu'un qui était en train de se noyer et qui partait dans une sorte de monologue intérieur. Donc il n'y avait pas de pause pendant 300 pages, parce qu'il y avait une sorte d'urgence.
Oui.
Mais ça, c'est hyper intéressant. Rien que d'en parler comme ça, on se dit n'importe quel éditeur en voudrait d'un procédé comme celui-ci.
Ouais, mais toute l'histoire de l'édition est faite de ça, de choses qui semblent évidentes après coup et qui, sur le coup, étaient tellement étranges. À part que l'esprit humain, il n'est pas fait pour l'étrangeté. Le premier réflexe, c'est de repousser, dire non, mais c'est quoi ce truc ? Et le travail de l'éditeur, c'est justement d'apprivoiser l'étrangeté, de dire mais si, n'aie pas peur, lis, tu vas voir ça, tu vas voyager.
Et Valérie Manteau, qui a reçu donc le prix Renaudot, le prix Renaudot, en général, ça promet quelques centaines de milliers d'exemplaires éventuellement. Comment on fait face à une telle demande dans ces cas-là, quand on est une petite maison d'édition avec tous les guillemets qu'il faut ?
Ouais,
c'est-à-dire que les grands ont toute une logistique prévue pour ça.
Ça fait des nuits courtes, effectivement, parce qu'il faut être à la hauteur, donc il faut gérer plein de choses à la fois. Après, j'ai un peu le calme des vieilles troupes quand même, parce que j'ai commencé dans l'édition chez Viviane Ami, et on devait s'occuper d'un auteur qui s'appelle Fred Vargas. Voilà, ça vous apprend à gérer les choses compliquées et un peu massives.
Et comment vous en sortez ? Économiquement, ça fonctionne ?
Ouais. Oui, parce qu'on se fait plaisir et je crois que les gens le sentent. On publie peu de livres, d'abord, et on travaille, j'appelle ça en mode beau livre, c'est-à-dire que chaque livre a droit à une maquette spécifique, on choisit le papier pour ce texte-là, le format, l'image. Et comme on fait tout en plus, on vit avec chaque livre qu'on publie facilement 2 ans.
Et ce qui explique aussi que les libraires vous soutiennent.
Ouais, ça il faut le dire d'ailleurs. Ouais. Ce prix-là, c'est en fait un hommage indirect à la librairie française. Les Français s'en rendent pas compte, mais on a le plus beau réseau au monde de librairies. Mmh. Et tous les succès du Tripode, et il y en a beaucoup, hein. On a parlé de Valérie Manteau, on a reçu le prix FNAC là, à la rentrée avec Bérangère Cornut. C'est des livres qui se vendent à des dizaines de milliers d'exemplaires. Et combien de fois des éditeurs à l'étranger me disent « tes livres sont magnifiques, mais nous on n'arriverait pas à les publier, on n'a pas les libraires pour défendre des textes pareils ».
Eh bien bravo en tout cas pour ce prix de la petite maison d'édition de l'année. Juste un mot sur cet intitulé « petite maison d'édition ». C'est vrai qu'on vous appelle comme ça, les éditeurs indépendants.
Ouais, il est erroné en fait. Moi je dirais « très petite maison d'édition
». Ça vous vexe pas en tout cas?
J'adore, parce que ça me rappelle, j'ai eu un maître dans l'édition qui s'appelait Jean-Jacques Pauvert, qui était un grand éditeur des années 50, et qui me disait « tu sais, une grande maison d'édition, c'est pas les succès qui la font, c'est l'ancienneté, c'est de la durée, c'est dans le temps. Si tu arrives à imposer une identité sur des décennies, ça va, tu seras un grand éditeur. Donc grosso modo, je vais rester petit pour encore 30 ans, je pense.
Merci beaucoup Frédéric Martin. Donc les éditions du Tripode, on peut pas les manquer en librairie, elles ont vraiment une identité, on les reconnaît. Merci beaucoup Frédéric Martin.
Merci.
Europe 1.
La semaine prochaine, vous reprenez la parole. Si vous voulez partager le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous. Il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres. Nous partons visiter la bibliothèque de Jean-Michel Rip.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Jean-Michel Rib vient de publier « Issue de secours » chez Actes Sud, un beau livre qui le dessine par ses goûts culturels. C'est justement ce qu'on a voulu faire en s'intéressant à ses livres. Et pour ça, nous sommes allés chez lui, c'est-à-dire au Théâtre du Rond-Point à Paris. Enfin, dans la librairie du théâtre. Chacun son créneau. Bonjour Jean-Michel Rib.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Oui.
Presque.
Oui.
On est à la... On est où, tiens ?
On est dans un endroit que j'ai souhaité quand je suis arrivé ici. C'est une librairie qui propose des choix proches de la programmation. Et la programmation étant proche de moi, je me sens proche de ces choix. Donc c'est une librairie au Théâtre du Rond-Point. Quand je suis arrivé, j'ai absolument voulu qu'il y ait une librairie, un restaurant et tout ça, que ce soit un lieu de vie et d'envie. Et grâce à Actes Sud, qui est mon éditeur, on a réussi à monter cette librairie qui est très bien achalandée, très bien dirigée, la meilleure de Paris.
Mais vous participez au choix des livres avec les libraires ou vous suggérez parfois ou pas du tout?
Non, mais vous savez, les libraires me connaissant, ils se disent « tiens, ça c'est peut-être quelque chose que… » etc. Va lui plaire. Non, 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 mais il y a ici… il y a un aller-retour. C'est-à-dire que je pense que moi, en effet, j'indique parfois… à Stéphane, qui est là, qui est le patron de cette librairie, je lui indique des livres que je voudrais voir sur les rayons. Et lui, parfois, m'en propose que je découvre grâce à lui et grâce à... Voilà, donc c'est une petite aller-retour très satisfaisant.
C'est une grande librairie, accessible directement quand on rentre dans le Théâtre du Rond-Point, immédiatement à gauche. Et oui. On peut évidemment rentrer dans la librairie sans aller voir un spectacle, oui. Sans avoir un ticket, je veux dire.
Non, non, bien sûr. Et il y a un rayon, il y a une petite... Vous voyez ici, il y a un hall d'exposition, on fait l'exposition et il y a un rayon enfant. Ah, donc, oui. Normalement, on peut y passer un grand moment.
Et alors là, c'est un peu le privilège aussi d'être tellement associé à un lieu, c'est que dans la librairie, il y a quand même toute une table avec que des livres de Jean-Michel Rib.
Ben oui, à force d'écrire beaucoup, beaucoup de bêtises, on finit par envahir une table.
Je vais vous poser la question impossible, mais c'est lequel votre préféré, celui que vous gardez sur l'île déserte? Il faut que ce soit vous l'auteur.
Ben, je sais pas, moi, pour rien vous cacher, j'aime bien quelques-unes de mes pièces comme Théâtre sans animaux ou comme... cri ou comme voilà les mois MOIS par mois, mais c'est vrai que celui pour qui j'ai une petite tendresse parce que on me l'a vraiment arraché du ventre, je voulais pas le faire, c'est Mille et un morceaux, et qui grâce à une comme ça, une femme d'une édition iconoclaste, Sophie de Civry, qui pendant des années m'a demandé d'écrire un des mémoires. Je n'ai pas voulu, puis j'ai trouvé la manière, c'est de faire des morceaux de vie en nouvelles et amusantes. Et voilà. C'est vrai que j'aime bien ce livre.
Il y a Palace, évidemment.
Oui, il y a oui, Palace, oui.
Mais alors ça, c'est Palace. Quoi c'est...
Ben, Palace, c'est ce qui est sorti tout de suite après l'émission. C'est-à-dire ça a été tous les textes de Palace. Et c'est intéressant parce que on croit souvent que les... Voilà, vous savez, ah, on va bien rigoler, c'est des blagues et tout ça. Pas du tout. Palace, c'était très écrit, écrit par les auteurs. Et d'ailleurs, si ça attirait autant de comédiens stars et connus, c'est parce qu'on leur envoyait les scénarios. Tout a été écrit avant, tout. Et après, on a tourné pendant 8 mois. Mmh. Donc, en effet, ce sont des textes et pas uniquement des impros.
Très bien. Bah, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans la librairie. Et donc, on commence par là. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, ça va être simple aussi. Oui. Il y a du Antonin Artaud. Oui. Ensuite, on passe...
Oui, Artaud, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas exactement mon truc. Alors que Genet, ça, j'aime beaucoup. Pas son théâtre, mais tout ce qu'il a écrit, Notre-Dame des Roses, etc. Je trouve que c'est un vrai grand poète, un écrivain très, très inspiré.
Et l'homme aussi ?
L'homme, il était en effet fascinant parce qu'il était en révolte contre lui, contre la société, contre tout le monde. Et c'est vrai que ça permet de se dire qu'il y a des gens qui luttent contre une morosité ambiante et contre un consensus étouffant.
C'est lui, ou je me trompe, ou je confonds, qui avait été pris en train de voler un livre, justement.
Je ne sais pas si c'était un livre, mais il a sûrement été pris en train de voler parce qu'il volait beaucoup.
Là, il y a... Samuel Beckett, évidemment. Ouais. Là, il y a toute la collecte. Hein. Beckett, c'est évidemment...
Beckett, oui. Pourquoi? Beckett, pourquoi? Parce que je dirais que c'est un peu... Si vous lisez, par exemple, la lettre qu'il a écrite après avoir écrit En attendant Godot, c'est admirable. C'est-à-dire qu'il dit, on me demande... Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Et ça, j'adore ça. Non pas parce que ça veut dire que c'est n'importe quoi, mais parce que c'est exactement une forme d'écriture que je ressens. C'est-à-dire, tout d'un coup, on est traversé, on a habité, on suit les personnages et on se dit pas, tiens, il y a un truc sur la pollution, sur le sida, sur on va écrire dessus, on va passer un message. C'est quelqu'un qui est traversé. Évidemment, c'est la société qu'il traverse, c'est son absurdité absolue. Total, et il est embarqué comme ça. Et de dire à la fin qu'il ne sait pas bien qu'il a été traité, je trouve que c'est la preuve que c'est un grand écrivain.
Il a aussi le génie des titres, Beckett, quand même. Malone meurt, ça sonne, quoi. En attendant Godot, évidemment, fin de partie, premier amour.
Oui, en vérité, oui, c'est ça. Et ce qui est étonnant chez Beckett, c'est que ça sonne en français, mais c'est aussi beaucoup traduit en anglais où ça sonne moins.
Les premiers amours de Samuel Beckett, je me suis laissé dire que c'était quand même un livre qui vous plaisait particulièrement. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est d'abord ?
Non, tout me plaît dans Beckett. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est pas pour échapper ni botter en touche, mais je pense que la dernière des choses qu'il faut faire avec Beckett, c'est raconter et expliquer. Parce que ce qui est expliqué n'existe pas chez Beckett. C'est comme ça, ça est. Et ce qui est expliqué est plus petit que ce que ça est. Donc voilà, c'est comme tout d'un coup...
On peut essayer de donner envie, sinon...
Ben voilà, lisez Premier amour de Beckett, lisez tout Beckett. De deux choses l'une, soit vous ne rentrerez pas dans cette espèce d'issue de secours qu'il est, soit vous ne le quitterez plus.
Alors, Naïve Zirondelle, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi il s'agit.
Naïve Zirondelle, c'est le rapport de quelqu'un qui veut monter une petite affaire. Naïve Zirondelle, c'est-à-dire c'est l'incroyable naïveté des gens face à ce qu'on leur dit et leur manière qu'ils ont d'y croire alors qu'il ne faut pas y croire. Quoi, c'est ça. C'est-à-dire, les hirondelles sont naïves dans la mesure où elles pensent que le monde est comme on dit qu'il est. Voilà.
Il y a Jean-Marie Gouriot, là, qui est un habitué du Rond-Point. Les brèves de comptoir. Sauf que là, c'est le livre Les papillons de comptoir. Je ne connais pas. C'est quoi ?
Ça vient de sortir, c'est très joli. C'est-à-dire que il a pendant des années, il a fait des livres avec ce qu'il entendait. Et là, il parle des lieux où il a entendu, c'est-à-dire endroits où il a recueilli les choses. Et l'atmosphère du café, ce que c'était, comment il était, quelle attraction ça avait pour un type de gens. C'est très joli. Il y a des cafés où c'est le silence, il y a des cafés où c'est que des flics qui viennent là. Il y a des cafés où ce sont tout d'un coup uniquement des gens qui regardent le sport, etc. Donc il a parlé des décors, des endroits, des coquilles où il a entendu tous les gens dont il a cité les phrases.
Ah, c'est une bonne idée, parce que moi j'ai lu les brèves de comptoir et je l'ai même vu au Théâtre du Rond-Point quand il y avait eu un spectacle qui que reprenait ces brèves. Mais j'imaginais toujours le même bistrot.
Oui. Bah non, c'est, en tout cas, si vous l'avez vu au Rond-Point, on faisait plusieurs bistrots.
Oui, non, mais je veux dire, moi j'avais mon idée du bistrot à moi. Quoi. Ouais,
Alors, disons que c'est pas faux ce que vous dites, parce que disons qu'il y a une solitude qui est partout pareille. C'est quand même ça, les brèves de comptoir, c'est des gens qui sont seuls, qui ne parlent nulle part, qu'on n'entend pas, qui n'existent pas, et qui finissent par être dans un endroit où tout d'un coup ils peuvent parler, se libérer. Et à mon avis, ils disent beaucoup plus le monde que et les journaux et la radio et tout ça. C'est, je veux dire, l'avenir, je préférais celui d'avant. C'est, personne ne peut dire ça. Et c'est, ça sort d'un bistrot. Et la campagne, c'est bien parce que quand on sort, on est dehors. Personne ne peut écrire ça. Et ce n'est pas des blagues. C'est des,
c'est
des
beau, sorties.
Ouais. Ouais, c'est très beau. Cette phrase aussi, que, ce type qui arrive un peu perdu. Et la battante lui dit « Alors, Georges, ça va? Tu habites toujours seul, c'est toi ?» Il répond « Oui, sauf quand je rentre, bien sûr. » C'est quand même assez... c'est des décalages poétiques que je trouve très importants parce que ça montre qu'il n'y a pas que des pochetrons dans les bistrots et la manière de parler comme ça de ces gens seuls, isolés, abandonnés est une manière extrêmement créative, luxurieuse et qui ouvre des fenêtres vers d'autres sens.
Roland Topor, Mémoire d'un vieux con. Pourquoi sublime. Vous l'avez sélectionné, celui-là?
Parce que c'est un livre sublime. C'est un livre très, très bien écrit et c'est une critique définitive sur tous les gens qui se font des biographies nombriliques en disant « Moi, j'ai très bien connu machin. Quand je dînais avec Freud, c'était formidable. » Et là, il mélange tout. Et c'est un chef-d'œuvre absolu, ce livre. Vraiment un chef-d'œuvre de drôlerie. Il désarçonne tout le petit monde intellectuello-parisien. C'est vraiment très, très drôle.
On va le lire. Merci beaucoup, Jean-Michel Rive.
T'en prie, c'est moi.
De nous avoir reçus. Merci beaucoup.
Europe 1.
De retour en studio, merci à Olivier Duval pour la prise de son. Et je rappelle le titre du nouveau livre de Jean-Michel Rive, issu de ce chez Actes Sud. Restez là, Christophe Daniel, libraire de La Voix et Livre, a médité toute la semaine dernière pour vous proposer les meilleurs romans. Il en a trouvé un particulièrement bon. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Retour dans La Voix et Livre et c'est l'heure des libraires, du libraire aujourd'hui, Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris. Bonjour Christophe.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes venu tout seul mais parce que vous avez beaucoup beaucoup de choses à nous proposer et notamment un grand roman que vous avez beaucoup apprécié.
Qu'est-ce oui,
que
c'est ? Un grand roman d'un auteur allemand, Ulrich Alexander Boschwitz. Le titre, c'est Le Voyageur, et c'est publié chez Grasset. Mmh. Alors, ce roman se passe en novembre 1938. Il commence le 9 novembre 1938 à Berlin.
Oula.
Pendant la nuit de cristal, avec les pogroms contre les Juifs dans toute l'Allemagne. Mmh. Et on va suivre en fait la fuite d'un négociant juif allemand, Otto Silbermann. Voilà, qui voit sa vie basculer tout à coup. Des gens de la SA et de la SS débarquent chez lui, il part en panique et il va passer de train en train, allant de Berlin à Hambourg, de Hambourg à Aix-la-Chapelle, Dortmund, Munich. Voilà, c'est une longue fuite et on sent toute la peur, toute l'angoisse. On ressent ça presque physiquement à la lecture de ce livre. Et il y a sans doute une bonne raison à ça, c'est que l'auteur de ce livre l'a écrit juste au moment des événements. Il avait 23 ans à l'époque et il a commencé la rédaction de ce livre donc en novembre 1938.
Mais ça a été déjà publié il y a très longtemps là.
Alors ça a été publié il y a très longtemps en Angleterre, donc en langue anglaise, puis aux États-Unis. Mais le tapuscrit original a été retrouvé dans les années 60 à Francfort. Et la famille de Ulrich Alexander Boschwitz a contacté un éditeur allemand, Peter Graf, qui était un peu spécialisé dans le fait de faire ressurgir des œuvres oubliées ou totalement inédites. Et donc la première traduction allemande de ce roman est parue en 2018 en Allemagne.
Et en France, ça vient de paraître.
Et en France, donc, c'est les éditions Grasset qui viennent de le traduire et de le publier.
D'accord.
Et le roman est sorti il y a un mois à peu près.
Mais c'est juste cette fuite ou est-ce qu'il y a aussi de l'amour, de l'aventure, de l'espoir éventuellement ?
Eh bien, c'est ce qui est très intéressant dans le roman de Ulrich Alexander Boschwitz, c'est que d'abord, il n'y a aucun manichéisme. On a affaire à des archétypes de citoyens allemands qui peuvent être ceux qui commettent les crimes, ceux ceux qui suivent un petit peu le cours des choses.
Un peu passif.
Et puis, un peu passif, ouais, exactement. Et puis aussi, certains qui sont très compatissants, qui essayent d'aider le plus possible. Donc il y a toute une galerie de personnages, d'émotions, et c'est un récit vraiment haletant, passionnant à plein de points de vue, et vraiment c'est une lecture importante parce qu'il y a une clairvoyance dans l'observation de ce jeune écrivain. C'est vraiment un livre important littérairement et puis historiquement parce que c'est un témoignage romanesque de la première importance.
Ça donne envie. Le Voyageur, donc, vous nous rappelez le nom de l'auteur parce que je vais pas être capable.
Alors, Le Voyageur, l'auteur c'est Ulrich Alexander Boschwitz.
Et le traducteur.
Et le traducteur, c'est Daniel Mirsky.
Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour Noël ? Là, j'imagine que dans votre librairie, il y a plein de clients qui arrivent paniqués en vous demandant qu'est-ce que je peux acheter pour mon petit cousin, mon neveu, etc. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en ce moment ? Vous avez vos petites vos gadgets, là, vos trucs ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore la panique parce qu'on n'est encore pas tout à fait au 24 décembre. Mais moi, il y a beaucoup de livres que je recommande. Alors, évidemment, ça dépend toujours du profil des gens à qui ils sont destinés.
Bien sûr. Mais c'est ciblé avec Christophe Daniel.
Voilà, donc moi il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est un livre que vient de consacrer Jérôme Soligny à David Bowie. Mm-hmm. C'est publié chez Gallimard, c'est une somme, c'est le premier volume, il va des années 60 aux années 80, il y aura un second volume à paraître au printemps, et c'est vraiment le David Bowie sous l'angle de la musique. Il y a plus de 300 musiciens, ingénieurs du son qui sont interviewés, donc des gens qu'on connaît, Tony Visconti, son producteur historique, mais des gens plus méconnus qui portent tous un témoignage artistique, musical, d'un intérêt majeur.
Ok, ça marche pour beaucoup de gens, David Bowie, c'est bien. Et qu'est-ce que j'offre à ma grand-mère, en deux mots ?
Oui, alors il y a ce magnifique livre de photos de Vincent Munier avec des textes de Sylvain Tesson.
Ah, oui.
Tibet, minéral, animal, où on va partir à la recherche de cette fameuse panthère des neiges qui a valu à Sylvain Tesson son prix Renaudot. Et là, ce sont toutes ces photos où on aperçoit, on devine, alors à la fois cette panthère des neiges, mais aussi quantité d'animaux incroyables qui vivent dans les hauts plateaux du Tibet. C'est un livre magnifique, visuel, mais aussi avec l'apport des textes de Sylvain Tesson.
Parfait, quel talent, ma grand-mère adore Sylvain Tesson en plus, et j'embrasse Suzy.
Je le savais.
Merci beaucoup Christophe Daniel, librairie La 25e Heure à Paris. Et maintenant on change de rayon, on va visiter le rayon jeunesse avec Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix est libre, il est l'heure de retrouver Victor Dolande et son conseil jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous avez choisi un western, mais pour les adolescents, intitulé « Sans foi ni loi ». Classique.
Ouais, je vous emmène dans l'Ouest américain, Nicolas, en plein cœur des années 1920. Le roman commence par un kidnapping, celui de Garrett, 16 ans, fils d'un pasteur, respecté de tous, mais ultra violent avec ses propres enfants. Garrett est donc kidnappé par un hors-la-loi qui porte des éperons d'or. Et ce qui n'est pas banal dans ce roman, c'est que le bandit en question, mais en fait c'est une femme. Son nom, Abigail Stenson, le cheveu court, des habits d'homme, une couche de crasse dans chaque pli de sa veste, une haleine souvent chargée en vapeur de whisky. Voici le portrait d'Ab Stenson. Et cette hors-la-loi va donc s'enfuir avec le jeune Garrett.
Et s'enfuir où ? Pour faire quoi ?
Alors direction le Wyoming, Ab Stenson rejoint une petite ville pour revoir sa petite fille. Qu'elle fait garder par une amie. Si vous aimez les westerns, vous allez être servi. Ambiance saloon, duel, pendaison arbitraire, tous les ingrédients sont là. On assiste même dans les 50 premières pages à une attaque d'ours vraiment, vraiment très effrayante. Et tout au long de cette chevauchée dans l'Ouest américain, Ab Stenson et Garrett vont apprendre à se connaître, à s'apprécier même. Leur relation passe par toutes les étapes, la peur d'abord, l'indifférence ensuite, puis la curiosité et une certaine proximité.
Question rituelle, à partir de quel âge on peut lire ce western, Victor ?
Alors il y a quand même des moments durs, hein, des passages aussi assez crus dans le bordel, arrière-chambre des saloons de l'époque. Je le conseillerais pour les adolescents à partir de 14-15 ans, ouais. Pas avant. Un western vraiment remarquable, une liberté extrêmement chère qui vous frappe à chaque page. Le jeune Garrett, d'abord otage d'Ab Stenson, va lui aussi profiter de la liberté de sa geôlière. Il va en fait découvrir la vie à son contact, l'amour également. Bref, une pépite, c'est Nicolas, à lire de toute urgence.
Et on rappelle le titre « Sans foi ni loi » de Marion Brunet, qui a écrit des polars aussi. Et
oui, bien sûr.
C'est aux éditions Pocket Jeunesse. Merci beaucoup, Victor.
À la semaine prochaine.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation, et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.